Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h35 sur RMC et BFM TV. Bonjour Clémentine Autain.
Bonjour.
Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. C'est le jour J des retraites. On va en parler évidemment, la position de La France Insoumise. Mais je voudrais d'abord vous faire écouter ce témoignage. Noël Le Graët, on le sait, doit aujourd'hui se soumettre à des auditions sur la gestion de la Fédération Française de Football. Et Sonia Souïd, qui est agente de joueurs, a témoigné sur BFM TV et RMC au micro de Sonia Carniero. Voilà ce qu'elle raconte.
Lors de ce rendez-vous, il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour m'aider dans ce sens. Excusez-moi d'être vulgaire, mais mon président me voit comme deux seins et un cul, en fait. J'ai été déçue par mon président. Pour moi, mon président, il doit être, excusez-moi, mais exemplaire. Et il ne l'a pas été. Ça fait toujours très mal. Ça m'a vraiment blessée au plus profond de mon être.
Ce témoignage, il a été entendu aussi par la ministre des Sports, qui dit « nous serons à la hauteur ». Noël Le Graët, peut-il rester ?
À l'évidence, non. À l'évidence, non. C'est un président qui, voilà, on le voit là, avec ce témoignage, a commis des violences sexistes et sexuelles. C'est un président qui, par ailleurs, a posé un certain nombre de problèmes en termes de management, puisqu'on sait qu'il y a eu des charrettes qui ont été faites à la FFF qui sont très discutables. Et puis, on a vu ses propos sur Zidane. Donc, je pense que en raison de son comportement et puis aussi sans doute d'un homme qui a fait son temps, il faut que cela cesse. Voilà.
C'est la fin d'un monde.
Sans doute que c'est la fin d'un monde. Mais enfin, il tarde à mourir, hein, si je puis me permettre, parce que c'est vrai dans le sport, mais c'est vrai parfois aussi ailleurs. Donc il faut en effet donner l'exemple et taper du poing sur la table. Vous savez, la France, l'État français a les moyens aussi d'intervenir, parce que à la fois ce n'est pas le gouvernement qui décide du président, mais avec le nombre de contrats qui existent et qui lient l'État français à la FFF, en réalité il y a des moyens de pression, et je pense que c'est le rôle en effet du gouvernement que de mettre la pression, parce que c'est un sport très populaire, très important sur le plan économique, et donc on peut pas se permettre d'avoir de tels symboles qui sont assez délétères.
Noël Le Graët, donc,
pour les valeurs, pour les valeurs de la France et pour un certain nombre de principes auxquels je tiens.
On reviendra sur ces questions plus largement en politique, mais évidemment, je voudrais qu'on parle des retraites, parce que c'est aujourd'hui le jour J. Elisabeth Borne qui dévoilera tout à l'heure à 17h30 officiellement les contours de cette réforme. Enfin, on en a déjà l'essentiel. 64 ans, 43 années d'annuité pour vous, c'est non?
Ah, c'est non. Mais vraiment non. Et je constate que le gouvernement s'est enfermé dans un monologue social, c'est-à-dire qu'il n'a absolument écouté personne et qu'il est prêt à avancer fortement en piétinant le point de vue de la majorité des Français, puisque encore une enquête d'opinion hier montrait que 85% des Français sont opposés à tout report de l'âge de départ à la retraite. Et on les comprend, parce que c'est insupportable de travailler plus longtemps, Apolline de Malherbe. Alors c'est vrai que quand vous avez un métier qui est un métier qui est peu usant, hein, notamment physiquement, on peut durer un peu plus longtemps. Mais quand vous faites des métiers pénibles, et les métiers pénibles, c'est pas simplement ceux qui sont répertoriés comme métiers pénibles, étant entendu que par ailleurs, la Macronie a diminué le champ de la pénibilité
reconnue. Il y a quatre critères. Voilà. Alors, c'est pas seulement la Macronie, hein, c'était sous François Hollande en réalité. Quatre critères de pénibilité sur 10 qui ont été abandonnés.
Je vais vous dire, sur les retraites, il n'y a pas que la Macronie. Hein. On sait que les réformes depuis les années 90 qui se sont succédées n'ont fait qu'aggraver, en fait, hein, notre régime et notre système. Donc là, on a un gouvernement qui veut passer en force, qui n'a pas de majorité dans le pays, qui n'a pas réussi le dialogue avec les partenaires.
Il n'a pas de majorité, bon.
Non.
Non, mais à chaque fois, vous dites ça, c'est pas complètement vrai, c'est pas 100% faux, mais ils n'ont pas la majorité absolue, mais c'est quand même le groupe majoritaire dans l'Assemblée.
Il n'a pas de majorité, et d'ailleurs, c'est grâce à LR qu'il pourrait faire passer sa contre-réforme. Et j'insiste sur le mot contre-réforme, parce que le mot réforme, voyez-vous, c'est améliorer les conditions d'existence. C'est changer quelque
Donc
chose
vous,
d'un point de vue positif.
Vous n'acceptez pas que ça s'appelle réforme, en l'occurrence.
C'est une régression. C'est simple, c'est une grande régression. Et elle a un objectif. Parce que pourquoi le gouvernement s'entête ? Le gouvernement s'entête parce qu'il veut atteindre les 3%, cette espèce de d'objectif totalement comptable, technocratique, inventé sur un coin de table à Bruxelles,
enfin,
d'ici à 2027.
Ça fait longtemps qu'il est complètement dépassé, hein, ce 3%.
Oui, mais sauf qu'il l'a en tête, aujourd'hui, le gouvernement, et il veut l'atteindre d'ici à 2027 pour être le bon élève de l'Union européenne et par rapport à ses propres objectifs. Et comme il a donné un pognon de dingue aux grands groupes économiques, aux hyper-riches, toute la précédente législature, eh bien maintenant, il faut faire payer les premiers de corvée. C'est ça qui se passe, c'est-à-dire que nous allons payer, et en particulier les plus modestes, et en particulier les ouvriers, les plus pauvres, les employés qui ont des métiers pénibles.
Vous,
ce sont eux qui vont payer, ce sont ceux qui ont commencé le plus tôt à travailler, qui vont payer l'addition.
Sur le fait qu'il y en a pour qui ça va être particulièrement douloureux, mais vous avez quand même laissé entendre, vous avez dit, bon, quand on a un travail pas trop pénible, on peut travailler plus longtemps. Est-ce que vous auriez pu envisager de distinguer davantage entre des professions, je dirais, col blanc, col bleu, pour reprendre des appellations sociologues anciennes, et dire, bah voilà, ceux qui sont cadres, qui gagnent bien leur vie, qui ont des travaux moins pénibles, bah, eux, on pourrait même les faire travailler plus longtemps pour eux.
Non, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que on peut choisir de travailler plus longtemps. On n'empêche pas. Voilà, on a possibilité quand même de tirer dans ce pays. Aujourd'hui, c'est l'âge légal est de 62 ans. D'abord, la réalité n'est pas 62 ans, parce que le problème, c'est aussi celui des trimestres. Et j'appelle tout le monde à faire très attention aux annonces ce soir sur cet enjeu des trimestres. Parce que le gouvernement, avec son accord avec LR, avec Éric Ciotti, peut proposer 64 ans et non pas 65 ans. Et donner l'impression aux Français que ah, c'est pas si pire d'une certaine manière. Sauf qu'il peut tout à fait faire 64 ans en accélérant ce qu'on appelle la loi Touraine, et c'est-à-dire au final en faisant peser sur les retraités la même somme, c'est-à-dire les 20 milliards qu'il cherche à trouver pour 2027.
Ce que vous voulez dire là, c'est que il pourrait allonger le nombre de trimestres à devoir cotiser.
Exactement.
La Première ministre a promis qu'il n'y aurait pas plus de 43 années de cotisation.
Oui, alors nous, on se bat pour 40 annuités, déjà, il faut être très clair, et pas 43, avec les 60 ans. Quand je dis nous, là, pour le coup, c'est la France
Insoumise. Votre réforme à vous, alors j'allais dire contre-réforme,
mais
enfin, j'ai
non,
bien compris que
ce sur quoi
le
nous
mot
sommes...
de vous ne conviendrait pas, mais enfin, non. Votre réforme à vous, ce serait 60 ans, 40 annuités maximum.
Et vous savez que 60 ans,
et pour
là, encore, là encore, une enquête d'opinion vient de le montrer, c'était la une du journal Politis, 68% des Français sont favorables à la retraite à 60 ans. Vous voyez, donc on est en phase avec une majorité des Français.
Mais ça, Clémentine Autain, en même temps, on a quand même envie de dire que, évidemment, si vous posez la question aux gens de travailler moins longtemps, tout le monde est pour. Ensuite, il y a la question aussi d'être élu. C'est-à-dire que l'argument politique d'Emmanuel Macron, c'est de dire, je ne prends pas les gens à revers, j'avais dit que j'allais réformer retraites, que j'allais la réformer même à 65 ans, voilà ce qu'il avait dit dans les semaines de campagne, et qu'il a été élu.
C'est faux.
Bah, il a été élu.
Oui, il a été élu, mais tout le monde le sait, dans un second tour, où ce qui a été le moteur le plus important, c'est de battre Marine Le Pen. C'est d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, lui-même l'avait dit. Le soir de sa victoire, il avait pris la parole et avait dit « J'ai conscience que je n'ai pas été élu 100% sur mon projet. J'ai d'abord été élu pour éviter une menace de l'extrême droite en France. »
Mais je suis quand même toujours surprise, Clémentine Autain, que vous remettiez en cause la légitimité du président de la République. C'est une élection démocratique. Vous pouvez dire que ce n'est pas les bons arguments, que ce n'est pas pour les bonnes raisons. Enfin, il a été élu quand même.
Oui, il est élu, il est président de la République, mais il doit composer avec la réalité
élu,
du peuple
mais
français.
C'est ça que vous dites.
Bien sûr, bien sûr. Il est élu, il doit composer avec la réalité des Français. Et j'estime que quand on fait une réforme avec plus de deux Français sur trois, voilà, qui est opposé à cette réforme, ça pose un problème démocratique. Vous êtes d'accord avec moi que ça pose un problème démocratique ?
Non, la question démocratique.
Vous trouvez normal
d'avancer ? La question démocratique, c'est quand même qu'à un moment, vous étiez vous-même dans la bataille des présidentielles, enfin, je veux dire Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence pour votre camp, et qu'il n'a pas été élu. On peut refaire l'élection tout le temps, on peut refaire les matchs, on peut dire bah c'est dégueulasse parce qu'il y a eu corner où il n'y a pas eu péno. Enfin, à un moment, il faut accepter le score.
Non, à un moment donné, il faut gouverner en essayant d'être d'accord avec ce que pensent les Français. Ça, pour moi, c'est la règle de base de la démocratie. Voilà.
Mais, la démocratie, à un moment, vous ne pouvez pas la rejouer tous les jours.
Bien sûr que non. La démocratie, ce n'est pas le temps d'une élection et puis après, c'est terminé. La démocratie, elle doit vivre entre
mais
deux élections.
Les Français et le président n'ont pas estimé que Jean-Luc Mélenchon devait être président de la République.
Certes, mais le président de la République doit aussi estimer ce que le peuple est capable d'acquiescer, de vouloir ou de ne pas vouloir. Et surtout, les arguments, je vais vous dire, me mettent très en colère. Parce que ce qu'on entend, c'est le système courait à sa perte. C'est faux. faux et refaux. Non seulement le corps, hein, qui est un institut, qui est pas une officine gauchiste, a expliqué en long, en large et en travers que le système n'était pas en péril.
Il n'est pas d'accord. En péril et il n'est pas aujourd'hui en déficit. Au contraire, même, il est bénéficiaire, mais ils estiment que d'ici 2 ans, il y aura un déficit de 12 milliards d'euros.
Alors 12 milliards, c'est quoi 12 milliards sur 340 milliards de prestations retraites données chaque année? C'est rien. C'est quoi 12 milliards comparé aux 80 milliards, un record, de ce qui a été reversé aux entreprises du CAC 40, je parle là de dividendes ou de rachats d'actions, 80 milliards. Vous prenez tout simplement 12% de ces 80 milliards et vous avez réglé le problème des retraites. Vous voulez également d'autres solutions? Moi, je vous donne un autre rapport, parce qu'il faut se rendre compte des choses. Hein. Le gouvernement, lui, a décidé de donner des milliards et des milliards par le biais autrefois du CICE, par le biais d'exonérations de cotisations, d'exonérations diverses et variées d'ailleurs, ou de soutien sans contrepartie aux grands groupes économiques et aux hyper riches. On se souvient de la suppression de l'ISF, c'était pourtant plus de 3 milliards. On sait aussi qu'avec la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée que le gouvernement a décidé
d'enlever, c'est une question de priorité.
C'est une question de savoir qui paye. Qui paye? Qui ont fait payer les choix économiques du gouvernement? Voilà. Est-ce qu'on continue de laisser fructifier les profits et de faire en sorte que la valeur ajoutée n'aille pas au travail mais qu'elle aille au capital? Ou est-ce qu'on décide enfin qu'on a de la justice fiscale et qu'avec cette justice fiscale, on est capable de faire tenir difficulté notre régime de retraite?
On parle aussi de la mobilisation et de la manière dont vous allez combattre cette réforme. Vous allez la combattre dans l'hémicycle. Vous avez déjà annoncé qu'il y aurait des motions de censure. Vous avez votre propre contre-projet sur les réformes des retraites. Est-ce que vous irez dans la rue également?
Évidemment qu'on ira dans la rue. Et j'attends avec impatience, je dois le dire, tout en me félicitant de cette unité syndicale qui est très très précieuse, la date qui sera posée probablement demain par les syndicats.
Peut-être
date
de dès mobilisation. Ce soir, ils évoquent la date du 19, du 24. Vous-même, de votre côté, vous
leur
aviez...
Leur date sera la nôtre. Cette unité syndicale est très précieuse et j'appelle celles et ceux qui nous écoutent à... je sais que ce n'est pas toujours facile de poser une date de grève, de faire la grève, de perdre un jour de salaire. Mais je suis convaincue que l'enjeu en vaut la chandelle et que si nous sommes suffisamment nombreux dans la rue, alors nous pouvons faire en sorte que le gouvernement recule. Ça a déjà été le cas dans l'histoire. C'est le moyen, le nombre que nous représenterons dans la mobilisation, dans les manifestations. C'est ça la clé pour faire reculer le gouvernement.
Donc leur date sera la vôtre. Je précise que plusieurs dates sont évoquées à ce stade, mais ça sera décidé ce soir par les organisations syndicales qui pourraient, dès le 19, appeler à une mobilisation ou alors le 24. Entre-temps, du côté de la France Insoumise, vous aviez évoqué le 21.
Oui, il y a aussi une mobilisation le 21.
Donc vous allez multiplier les dates ou est-ce que vous allez abandonner les autres dates pour vous concentrer exclusivement et pleinement sur les dates choisies par les organisations syndicales?
Le plus important sera la date.
Pour ne pas se disperser.
Le plus important, le moment qui peut fédérer le plus dans le pays, ce sera la date proposée par les organisations syndicales. Les mouvements de jeunesse, avec notamment la France Insoumise, ont décidé de manifester un dimanche le 21. Voilà, il faut que tout ça indique une montée en puissance. Par ailleurs, il faut l'unité politique à gauche, et je me félicite que la NUPES parte en ordre vraiment rassemblé. Il y a ce soir un premier meeting, vous le savez peut-être, à Paris.
Vous allez tenir un certain nombre de réunions publiques, avec à la fois des membres de la France Insoumise, du Parti Socialiste, du Parti Communiste.
Et partout en France, voilà, nous allons faire des meetings, et aussi, il y a tout un travail des consciences à faire.
C'est quoi le travail des consciences?
Vous entendez hein, le gouvernement qui rabâche sans arrêt soit des choses complètement dingues comme « parce qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps ». Alors ça ressemble à une lapalissade, vous voyez, on se dit tous « ah bah oui, c'est évident ». Mais non, c'est pas évident. Ça, c'est pas le sens du progrès humain. Si on raisonne en se disant que on veut que
quand
nos enfants
nos
vivent
voisins,
mieux que nous.
Par exemple, les Italiens qui travaillent aujourd'hui jusqu'à 67 ans, demain jusqu'à 69.
Alors ça aussi, ça fait partie des arguments qui sont beaucoup donnés. D'abord, si les gouvernements voisins ont décidé d'avoir un système de protection qui n'est pas favorable, contrairement au nôtre, historiquement, je vois pas pourquoi on les copierait. On n'est pas obligé de copier nos voisins. Et puis, il faut les regarder dans le détail, ces autres systèmes. Parce que le système de retraite, c'est pas simplement un âge de départ légal. C'est aussi le nombre d'années de cotisation, les conditions dans lesquelles on part, etc. Donc, quand vous prenez l'ensemble de l'épure,
vous dites, les comparaisons ne sont pas tout à fait ce que dit le gouvernement. Vous dites qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur les arguments. Je voudrais que vous écoutiez les arguments hier soir de la première dame, Brigitte Macron, qui était l'invitée de TF1, et qui dit que tout simplement, elle est là aussi pour... Enfin, elle est là. Que son mari est là pour sauver les retraites. Écoutez.
Ce que me disent les plus jeunes, simplement un point de réflexion, c'est qu'ils me disent, nous, de toute façon, on n'aura pas de retraite. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. C'est tout ce que je peux dire.
Oui, c'est tout. D'abord, pardonnez-moi une remarque, mais que fait la Première Dame de France, comme on l'appelle, à la télévision
En l'occurrence, elle était là pour présenter l'opération Pièce Jaune, qui est le président de la Fondation des Hôpitaux.
J'entends bien, mais je trouve très curieux. Elle ressemble à une vice-présidente. Non, je pense que ce n'est pas son rôle. Elle n'a pas été élue démocratiquement. Et on voit bien qu'à la veille d'un grand rendez-vous, qui est l'annonce terrible de cette réforme par le gouvernement, elle vient, sympathiquement, faire passer un message en profitant de sa notoriété et de sa place.
Vous laissez entendre que là où elle va, en tout cas officiellement, pour demander de l'aide pour les hôpitaux, pour vous, c'est un peu un prétexte?
Non, d'abord, demander de l'aide pour les hôpitaux, écoutez, qu'elle en parle à son mari, c'est quand même lui qui est président de la République. L'état de mais c'est catastrophique dans l'hôpital.
Des pièces jaunes, quoi.
C'est pas les pièces jaunes, c'est pas ça. C'est pas la charité qu'on demande, c'est la justice sociale. C'est la justice sociale. Vous voyez, c'est pas du tout la même logique. Et quand je vous parlais des 80 milliards tout à l'heure, 80 milliards empochés par les entreprises du CAC 40 qui sont redistribuées en dividendes.
Vous préféreriez qu'elle aille voir les patrons du CAC 40?
Il faut très peu. Vous voyez, vous parliez de 12 milliards pour les retraites. Sur 80 milliards, mais c'est pas grand-chose. Donc, c'est tout à fait possible de trouver ce qui manque, c'est-à-dire c'est très peu. Donc, faire croire qu'on sauve le système en nous faisant travailler plus longtemps est tout simplement un mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mensonge. Ils peuvent le répéter à nauseam, cela ne changera pas la réalité. C'est faux de dire que le système court à sa perte. C'est très facile de trouver ce qui manque à un moment donné. Et puis par ailleurs, il faut se méfier des prévisions. Le corps...
J'ai bien compris que vous n'étiez pas d'accord
avec... Non, c'est pas simplement ça. C'est quand on regarde ce que prévoyait le corps en 2013 pour l'année 2022, il disait le système courra à sa perte, il y aura 22 milliards de déficit.
Et effectivement, depuis, ils disent, il y a eu le Covid.
Non, c'est pas depuis, c'est la réalité. Mmh. On a eu 3 milliards d'excédents. Mmh. C'est la réalité, on a eu 3 milliards d'excédents. Donc, nous faire travailler plus longtemps avec des projections qui sont difficiles à anticiper, on n'anticipe pas, par exemple, un changement de politique économique. Si vous changez de politique économique, si vous augmentez les salaires, le SMIC,
donc,
si vous faites avancer l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est terminé, il n'y a plus de sujet.
En tout cas, l'urgence sur l'équilibre économique n'est pas le bon. Clémentine Autain, je voudrais qu'on dise un mot de l'Iran, parce que vous vous êtes engagée. Je voudrais que vous nous disiez d'ailleurs, que vous nous parliez de cette personne qu'on va voir à l'antenne sur BFM TV. Pour ceux qui nous écoutent, il s'agit d'un jeune homme iranien. Qui est-il?
Ah, vous parlez de mon...
De votre
filleul. Tout à fait. C'est mon filleul et il a été pendu par le régime iranien samedi. Et j'étais en effet marraine de ce jeune homme qui fait partie...
Marraine de manière symbolique.
Symbolique, hein, tout à fait.
Vous avez pris en quelque sorte ce rôle.
Exactement. J'ai pris ce rôle et je suis, je dois le dire, assez bouleversée de ce qui s'est passé. Nous avons déjà eu 4 exécutions, en fait, de personnes qui se battent pour la liberté, qui se battent pour la démocratie, qui osent affronter un régime dictatorial qui est le régime iranien et ils le payent de leur vie.
Alors, il avait 22 ans.
Il avait 22 ans, tout à fait. Il avait 22 ans et malheureusement, il n'est pas le seul et d'autres sont menacés. Je veux envoyer un message d'espoir, c'est que d'autres de mes collègues députés en France ont parrainé ou marrainé d'autres jeunes qui, eux, ont réussi à obtenir un sursis. Et donc, la mobilisation internationale se soutient. D'abord, il est très important pour ceux qui luttent sur place, parce que ça donne de l'espoir, et on le sait, c'est toute l'histoire des relations internationales. Nous savons que quand il y a ce type de mobilisation, on a besoin d'entendre ces voix fortes qui nous donnent de l'énergie.
Est-ce que la France en fait assez ?
Et par ailleurs, ça a permis ce sursis. Non, la France n'en fait pas assez. Et j'avais entendu le président de la République, Emmanuel Macron, nous dire qu'il allait falloir prendre des mesures diplomatiques fortes, des paroles fortes. Et puis quoi ? je n'ai pas entendu le son de sa voix, alors que ces jeunes...
L'ambassadeur iranien a été, enfin d'Iran en France a été
Excusez-moi, vous trouvez que c'est à la hauteur? J'avais entendu parler de prise d'initiative au sein de l'ONU et du Conseil de sécurité. Je ne vois rien venir et je pense qu'en effet, le silence assourdissant côté du sommet de l'État est un problème.
Charlie Hebdo qui publie des caricatures et qui a fait un concours de caricatures de l'ayatollah Khomeini. Est-ce que vous soutenez Charlie Hebdo?
Moi, je soutiens la liberté d'expression en règle générale. Voilà. Après, chacun jugera de l'opportunité. Est-ce que ça aide ou pas stratégiquement?
Vous avez un doute. Vous ne dites pas je soutiens Charlie Hebdo.
Non, je dis que je soutiens la liberté
Vous dites on n'en fait pas assez quand il y en a qui font.
Non, je soutiens la liberté d'expression. Je soutiens la liberté d'expression.
Vous ne diriez pas je suis Charlie.
Mais je l'ai dit, je suis Charlie.
Non, mais je sais pas,
mais l'expression...
J'ai le sentiment que vous avez un peu du mal à dire...
L'expression « je suis Charlie », elle dit quelque chose de fort. Elle dit, et je l'ai dit, alors vraiment sans embâche, j'ai manifesté. Je veux dire que des journalistes, une rédaction soit décimée par des terroristes pour avoir publié des caricatures, enfin écoutez, c'est insupportable, absolument insupportable. Donc je défends ce droit... Voilà, à caricaturer, ça engage Charlie Hebdo. J'ai pas participé à la discussion qui a amené à ces unes. Voilà, ça fait partie du paysage et la liberté de la presse et le droit de caricaturer dans notre pays et j'aimerais à travers le monde doit être en effet
Clémentine Autain,
fait partie des libertés.
Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, merci d'avoir répondu à mes questions.